Une fleur dans un champ d'herbe, par Richard Keller, chapitre 9. Les résultats de l'autopsie des restes du cadavre retrouvé au fond d'un puits du village sont communiqués à la cellule spécialisée. Le lieutenant Gilles prend connaissance du rapport. L'hypothèse devient réalité. Les tests effectués sur la famille Million confirment qu'il s'agit de Julie. La famille a reconnu une bague retrouvée avec les ossements. Il n'y a aucune trace de fracture, ce qui n'est pas anormal, car la profondeur de la nappe d'eau est de 6 mètres. Julie Million a donc pu se précipiter au fond du puits sans se rompre les os. Selon toute probabilité, elle s'est donc noyée. Le corps étant entièrement décomposé, seule l'analyse d'ADN s'est avérée possible. Elle était dépressive au moment des faits. Il s'agit vraisemblablement d'un suicide, ce qui corrobore les dires de la famille. La disparition de la jeune femme date d'un peu plus de 9 ans. Elle venait d'avoir 22 ans. Très timide, elle se confiait peu à son entourage. Sa mère avait bien remarqué un changement dans les jours précédant sa disparition. Mais elle avait déjà fort à faire avec l'alcoolisme de son mari. Dans les campagnes du bocage, l'alcool est inscrit dans les gènes depuis des générations. Le père ne dérogeait pas à la règle. Ici, pour être considéré comme un homme, il faut avoir du coffre et bien supporter les boissons du terroir. Le calva et les autres spécialités locales ont longtemps été les maîtres d'œuvre de ces traditions ancestrales. De nos jours, la prise de conscience et la répression commencent à porter leurs fruits. Cela évitera bien des drames. La mère de Julie eut donc à faire face à 2 épreuves en même temps. Les gendarmes firent des recherches sommaires dans la région et le dossier se retrouva rapidement parmi les affaires classées par l'usure du temps. Personne ne songea à inspecter le puits. Il convient de dire qu'il était fermé par une grille et un cadenas. Elle a dû prendre la clé, monter sur la margelle, ouvrir la grille, se faufiler derrière et la refermer avec le cadenas. Le geste était prémédité, afin que nul ne vienne chercher ici la clé rouillée qui a été retrouvée au fond, à côté des restes de la jeune fille, doit être la clé qui verrouillait la grille. Gilles est dubitatif. Il se pose plusieurs questions. Se demande pour quelle raison elle a accompli ce geste fatal. Y a-t-il un rapport avec la disparition inexpliquée de Benjamin? S'il y en a un, ce n'est pas au fond des puits du village ou des étangs. La réponse n'est pas dans l'eau, se dit l'enquêteur. D'ailleurs, les analyses de l'eau du puits n'ont rien révélé. Hormis un taux élevé de nitrate, la quantité de bactéries est faible. Aucun autre élément chimique ne figure sur le compte rendu. Le père de Julie mourut quelques mois plus tard d'une cirrhose. La faucheuse avait durement œuvré dans la famille Million. La mère se drapa de noir et ne sortit presque plus de chez elle, sauf pour les choses essentielles. Un zombie errant parmi les vivants, telle était devenue la mère attentive et énergique. Elle ne résista que grâce au secours de la médecine et du reste de la famille. Gilles était choqué par le manque d'initiative des services de recherche à l'époque. Son devoir de réserve lui interdisait d'en dire davantage. Il garderait son intime conviction pour lui. 36 jours sans le sourire de Benjamin. 36 jours à vivre d'espoir et de chagrin. 36 jours autrement. Il n'a toujours pas donné signe de vie. Rien qui puisse supposer que son petit cœur bat encore. Aurélie et Guillaume se raccrochent à la moindre piste. Et depuis la disparition, ça n'a pas arrêté. L'épreuve est usante, sournoise, elle ronge de l'intérieur. La famille et la gendarmerie ont reçu de nombreux appels. Tous ont été traités. Certains ont abouti à l'arrestation de mythomanes. Ceux-là vont comprendre que l'on ne joue pas avec le malheur d'autrui. c'est une activité stupide qui gêne les enquêteurs et retarde la découverte de la vérité. Ils seront poursuivis pour entrave à la justice et assertion mensongère. Des charlatans de tout poil ont proposé leur service, allant du marabout au radiesthésiste, en passant par la voyance et la divination par les cartes. Guillaume et Aurélie ont la tête sur les épaules. Ils ne donnent pas suite à ces sollicitations mercantiles. Aucune revendication sérieuse n'est venue apporter une note d'espoir. La cellule va vivre au ralenti pendant le mois d'août. Il n'y a aucune piste sérieuse à ce jour. Le lieutenant fait des recommandations à ses collaborateurs avant que l'effectif ne soit trop réduit. Il va entendre le couple Dorel, habitant à environ 800 mètres de la ferme. Ayant déjà fait l'objet d'une audition par la brigade locale, il souhaite néanmoins le rencontrer personnellement. Il arrive devant une maison basse. Le bâtiment est tout en longueur. Sous un grand arbre, à l'ombre, il y a un enfant assis dans un fauteuil électrique. « Ce doit être la petite Charlène, » se dit le gendarme. Il se gare précautionneusement et se dirige vers le fauteuil. L'enfant vient dans sa direction. Il dit bonjour à la jeune fille. C'est bien Charlène. Elle a un joli visage plein de taches de rousseur. Elle lui demande s'il veut voir sa maman. Il acquiesce. Nathalie Dorel suit la scène sur le pas de la porte. Il lui dit en la saluant que sa fille est très sympathique. Rousse comme Charlène, la ressemblance est frappante. Les mimiques sont les mêmes, jusqu'aux fossettes sur les joues. Il lui demande s'il peut discuter avec elle pendant quelques minutes. Elle lui propose d'aller à l'intérieur. Il y a beaucoup d'espace dans la maison. Tout a été pensé pour permettre à Charlène de se déplacer aisément avec son fauteuil. Au début, Nathalie Dorel est un peu crispée. Puis, au fil de la conversation, elle se déplie sur sa chaise et les réponses deviennent spontanées. Gilles inspire confiance. Les questions tournent autour de la petite Charlène. Il veut savoir si Benjamin l'a côtoyée. Elle répond en disant que l'absence de Benjamin est difficile pour sa petite fille. Il est aux aguets comme un félin. Il ne montre aucun sentiment particulier, se contente d'observer son interlocutrice. Elle se comporte le plus normalement possible. Il veut s'assurer que les époux Dorel n'ont pas de ressentiment vis-à-vis de Benjamin. Ayant le même âge que Charlène, il n'a pas eu besoin de fauteuil pour se déplacer. Il ne faudrait pas que dans un moment de déprime, Gilles n'ose pas y penser davantage. Dans sa jeune carrière, il a déjà été confronté à des situations imprévisibles. Alors, il ne veut pas négliger cette piste. Il espère seulement se tromper. Madame Dorel a précisé à l'enquêteur que son mari n'allait pas tarder à rentrer du garage où il travaille en tant que mécanicien. En attendant, il discute avec Charlène. La petite fille clouée dans son fauteuil lui parle de son copain. Elle dit qu'il est en voyage. Il n'ose pas trop répondre sur le sujet. Il préfère faire converser la petite. Il a ainsi la confirmation que le garçonnet venait la voir plusieurs fois par semaine. Alain Dorel s'est garé aux côtés du véhicule de la gendarmerie. Il arrive rapidement vers le lieutenant et sa fille. Son premier geste est de l'embrasser. Il l'appelle sa frimousse. Il serre la main de l'enquêteur. L'homme est joyeux. Gilles est impressionné par la force morale du couple. La maladie les soude au lieu de les déchirer. Il parle un long moment avec le père de Charlène. Monsieur Dorel lui donne une leçon de vie. Il respire la joie, il souffle l'espoir. Il se demande ce qu'il ferait s'il était à leur place. Ces gens-là sont exceptionnels. Au lieu de considérer l'adversité comme une ennemie, ils l'ont apprivoisée, domestiquée et maîtrisée. Ils font face au handicap de Charlène avec dynamisme et simplicité. La petite fille ne pourrait pas être plus heureuse ailleurs. Le mois d'août ne sera pas de tout repos pour les enquêteurs présents. Par extension, le bocage verra se répandre les vacanciers en excursion au Mont-Saint-Michel. La population sera multipliée de façon exponentielle. Difficile dans ces conditions de procéder à des investigations sereinement.